Ce soir, on va parler de loi. J'aimerais qu'on lise pour commencer dans le livre que nous préférons tous, c'est le Lévitique. Mais ce qu'on va lire est quand même simple. C'est la justice de Dieu dans Lévitique au chapitre 24. Donc Lévitique, c'est le troisième livre. Oui, c'est ça. J'ai des doutes, si c'est ça. Lévitique 24, et on va lire au verset 17. Qu'on ait lu ou pas la Bible, on se rend compte que les hommes et les femmes le vivent assez naturellement. On le voit même chez les enfants. Lisons ensemble. Lévitique 24, 17. Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera. Vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Ça, je pense que même sans connaître la Bible, vous avez déjà entendu ça. Œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, mais celui qui frappera mortellement un homme sera puni de mort. Vous aurez le même droit, l'immigrant ou l'autochtone, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et cette loi-là, c'est une loi qui vient de Dieu, c'est une loi qui vient du ciel, mais il n'y a qu'à regarder les enfants pour se rendre compte que cette loi-là, elle est aussi dans notre cœur. Moi, quand je vois mes enfants se disputer, il y a un coup de pied qui est donné à gauche, le coup de pied de droite, il arrive aussitôt. C'est automatique. On est fait comme ça. Et finalement, c'est une preuve encore de notre provenance. C'est une justice, c'est une forme de justice. C'est celle que Dieu applique pour juger. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. Et au verset 38, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il y a une même idée qui ressort. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 18, on va lire qu'une partie du verset. C'est la dernière phrase du verset. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne sais pas si vous faites le lien entre ce qu'on a lu dans le Lévitique et ce que nous lisons ici dans le Nouveau Testament. C'est une application de la même loi. Dans l'Ancien Testament, c'est par rapport au jugement, et dans le Nouveau Testament, c'est par rapport à la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un don que Dieu me fait, alors que je ne mérite absolument rien. Et le don que Dieu me fait, quelque part, m'amène à donner derrière. Et quand Dieu m'a donné quelque chose, eh bien, je redonne à ma mesure ce que je peux donner. Mais c'est une application identique, quelque part, à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament par rapport au jugement. J'ai reçu des coups, alors je rends les coups. Là, j'ai reçu une faveur, alors je donne une faveur. Et ici, il est question de ce qu'on a reçu. Et j'aimerais juste indiquer une chose. C'est que finalement, une seule personne a donné sans rien recevoir. Je pense que vous savez de qui je parle, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est venu donner sans recevoir. Il a quitté, comme ce chant introduit très bien ce que je voulais partager, il a quitté son ciel de gloire. Lui, il ne devait rien à personne. Lui, il n'était pas obligé de venir parmi nous. Et il est venu pour se donner, pour nous faire ce don merveilleux que celui de sa vie. Il est venu pour se donner pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés et pour pouvoir mettre en application cette loi-là. Il va nous donner gratuitement pour que nous aussi, derrière, on puisse donner gratuitement. Et c'est ainsi que, quelque part, un mécanisme s'inverse entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura dorénavant, suite à la mort de Jésus à la croix. On a reçu la parole de Dieu dans notre cœur, alors on la partage. On l'a reçu, donc on partage. C'est tout était une suite logique de cette même loi. On a reçu, alors on partage. Et ce que nous faisons ce soir n'est qu'une application supplémentaire de cette loi-là. Et j'aimerais donner un exemple de l'application de cette loi avec une histoire qui, vous allez le voir, j'y viendrai à la fin de cette prédication, est une ombre de quelque chose à venir. Et j'aimerais lire d'abord un premier texte avec vous dans 1 Samuel, chapitre 31, et on va lire les 6 premiers versets. Il est question de la manière avec laquelle le roi Saül est tombé. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab, Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat porta sur Saül, les archers le découvrirent, et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leurs outrages. » Regardez la réaction du porteur d'armes. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses hommes. Voici une version de la mort du roi Saül. Et si il y a un autre livre, le livre des Chroniques, qui a été écrit par un auteur différent, nous rappelle ces mêmes faits-là. On peut les considérer comme étant les faits officiels. Maintenant, vous tournez la page. On arrive dans 2 Samuel. Et les 16 premiers versets sont étonnants. Nous y trouvons la version, une autre version de la mort de Saül. Alors si on ne réfléchit pas, on va se dire, mais la Bible, elle est fausse parce qu'elle se contredit. Allons un peu plus loin dans la réflexion. Lisons ensemble ces versets. Or, après la mort de Saül, David, qui avait battu Amalek, s'en retourna à Tziklag, où il resta 2 jours. Le 3e jour, voici qu'un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva auprès de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Fais-moi donc un rapport. » Il répondit, « Le peuple a fui le combat, et même beaucoup de ceux du peuple sont tombés et sont morts. Saül même et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui faisait ce rapport, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit, « Je me trouvais justement sur la montagne de Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance, et voici que les chars et les cavaliers le serraient de près. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Il dit, « Arrête-toi donc près de moi et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique un corps plein de vie. » C'est bien fait, c'est bien dit quand même. « Je me suis arrêté près de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qu'il avait au bras, et je les apporte ici, à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Donc on peut imaginer que c'était le matin. à cause de Saül et de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait fait ce rapport, « D'où es-tu ? » Et il lui répondit, « Je suis le fils d'un immigrant amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'étendre ta main pour faire périr le Messie de l'Éternel ?» Et David appela l'un de ses jeunes gens et dit, « Approche et abat-le. » Cet homme frappa l'amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang soit sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort au Messie de l'Éternel. » Et cette dernière phrase m'a beaucoup fait réfléchir. « J'ai donné la mort au Messie de l'Éternel. » Dans cette simple phrase-là, il y a de quoi réfléchir. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle qu'on va mener. Avons-nous remarqué qu'ici, on a quelqu'un qui est condamné pour un acte qu'il n'a même pas commis ? Il n'a pas tué Saül, parce que Saül s'est suicidé. Je ne sais pas si on se rend compte le poids que peuvent avoir nos paroles. Ici, comme le dit David, ses paroles ont déposé contre lui. Si on fait une petite enquête approfondie de cette affaire, on voit un homme qui est amalécite et qui était au combat, qui a certainement vu Saül se suicider, il était sur place, il a vu la scène, et en voilà un qui avait une idée derrière la tête. Il s'est dit, moi, je vais essayer de tirer parti de cette affaire. Et le voilà qui commence à faire des calculs. Le voilà qui... Ça tombe bien, il a le temps du voyage, c'est pas tout à côté, donc il a le temps de venir, de réfléchir à ce qu'il va dire, tout ça. De même réfléchir à sa tenue, parce qu'il n'arrive pas dans n'importe quelle tenue pour annoncer la nouvelle. Il se fait passer quand même pour quelqu'un qui est avec eux, pour un allié. Alors il se couvre la tête de terre, il déchire ses vêtements, c'était le symbole du deuil en Israël. Et cet homme-là, finalement, il essaye de trouver une bonne histoire, quoi. Quelque chose qui va essayer de ne pas déshonorer Saül et en même temps de l'honorer lui. Parce que finalement, ce qu'il a fait, c'était une faveur qu'il a donnée à Saül. Et il a bien réfléchi à son affaire, à son histoire, et il avait une idée derrière la tête. Il ne venait pas qu'annoncer une bonne nouvelle, vous vous en rendez bien compte. Nous avons affaire ici à quelqu'un qui avait envie de tirer parti de cette situation. Quelqu'un qui avait soit soif d'honneur, ou alors qui cherchait une récompense. Bref, il voulait en obtenir quelque chose de cette histoire. Quand on voit jusqu'où la vanité peut nous amener, c'est triste, hein ? C'est un homme, il était sûr de son coup. Il était sûr de lui. Il était sûr que ça passerait. Et il était tellement sûr de lui qu'en plus il amène des preuves. Là, David, voyant les preuves, en plus, ça va lui être difficile de se dire que peut-être qu'il n'a pas dit la vérité, etc. Et j'aimerais commencer à donner un avertissement parce que on est peut-être un certain nombre à se proclamer chrétien. On se proclame chrétien. Et en se proclamant chrétien, il y a souvent un certain nombre de sous-entendus. Et il y en a, ils se rassurent devant Dieu quant à leur vie. Ils font des bonnes œuvres à gauche, des bonnes œuvres à droite. Ils essayent de soigner leur comportement, soigner leur caractère, c'est très bien. Mais ils le font par leur propre force. Et ils pensent qu'avec ces arguments-là, en allant au ciel, devant Dieu, eh bien, ils ont assuré leur survie, entre guillemets. Et certains même sont sûrs d'eux, en plus. On peut essayer de ficeler tout un discours, on peut essayer d'imaginer toutes sortes de choses pour essayer de se trouver des excuses devant Dieu par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos mauvais comportements, par rapport à notre péché. On peut essayer. Mais il y a une chose qui risque très fort de nous arriver, comme c'est arrivé à ce jeune homme, c'est que nos paroles risquent d'être notre propre filet. Je ne sais pas si on le réalise. Alors, imaginons la scène. Il arrive devant David, il commence à expliquer sa belle histoire, il met Saül en valeur, il se met aussi en valeur, parce que s'il y a quelqu'un qui mérite une récompense, ben c'est bien lui. Donc il se met en valeur en disant qu'il a fait cette faveur à Saül, qu'il n'a fait qu'obéir à Saül. Et là, vous avez vu, vous avez lu comme moi, c'est la douche froide quand même. Alors qu'il pense que David va sauter de joie avec son armée, etc., parce que son ennemi, son persécuteur a été tué, voilà que David, il commence à pleurer. Il commence à déchirer ses vêtements. Voilà que tous ceux qui sont autour de lui font la même chose. Voilà que David commence à faire une cérémonie funèbre. Combien de temps ça a duré? Il jeûne jusqu'au soir. Et là, cet homme qui était persuadé d'apporter une bonne nouvelle, il était persuadé qu'il obtiendrait une récompense, il a en face de lui des hommes, il ne doit plus trop savoir quoi faire, quoi dire, face à un comportement qu'il n'attendait certainement pas. Quelque chose me dit que pour cet homme, la journée va être longue. Vous avez vu que le jugement ne tombe pas tout de suite? Le jugement ne tombe pas tout de suite. Je crois que ça nous parle aussi, cette affaire. Un temps d'attente. Il y avait des signes annonciateurs qui étaient là pour parler à cet homme. Cet homme, il a vu la réaction de David. Il s'est bien rendu compte qu'il apportait une mauvaise nouvelle et pas une bonne nouvelle. Il s'est bien rendu compte que toute l'armée de David avait elle-même déchiré ses vêtements et avait une grande considération pour Saül, malgré la persécution qu'il leur donnait. Cet homme a pu se rendre compte de la tristesse. Il a dû regarder ça d'un œil particulier. Et il a eu un certain temps pour réfléchir à ses propos. Parce que n'oublions pas, il est venu chercher une récompense, il est venu chercher des honneurs. Il est venu en apportant un récit, rappelons-le, complètement faux. Je ne sais pas moi. Devant cette réaction, je ne sais pas comment j'aurais réagi, hein. C'est facile de donner la leçon quand on connaît la fin de l'histoire. Mais devant la réaction de ce roi et de toute son armée, est-ce que ça n'aurait pas valu le coup qu'il revoie un peu sa copie? Qu'il essaye de réfléchir? Il a eu le temps, il aurait eu le temps de ficeler autre chose, à la limite, pour essayer de rattraper le coup. Il va essayer, mais ça ne va pas marcher. Il n'a pas saisi le temps qui lui était donné pour réfléchir. Et j'aimerais vous dire ce soir que nous sommes dans une situation un peu similaire où on est tous en sursis, en attendant un jugement. La question, c'est le temps qui se passe, qu'est-ce que nous en faisons? Où vont nos pensées? Où vont nos réflexions? Cet homme a eu à répondre de la mort du Messie, je cite, David, du Messie de l'Éternel. Et nous, nous avons tous à répondre de la mort du Messie de l'Éternel, Jésus-Christ. Et alors que nous avons tous à répondre de sa mort, le temps passe. Et pendant ce temps qui passe, Dieu patiente. Et pendant ce temps-là, il attend une réaction de notre part. Dans le livre des Hébreux, il y a ce texte qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après coup vient le jugement. Le temps qui nous est attribué n'est pas le même selon les personnes. Pour certains, ils vont partir jeunes. Pour d'autres, ils partiront plus vieux. Peut-être aussi que le Seigneur reviendra Et auquel cas, quand il reviendra, ceux qui auront confié leur vie au Seigneur partiront avec lui, tandis que les autres resteront. Bref, on n'a aucune maîtrise sur le moment où le jugement sera donné. Et pendant ce temps-là, cet homme ne bronche pas. Il ne bronche pas. Il attend que ça se passe. Il ne réagit pas devant le malheur de David, de ses hommes, etc. Il ne bronche pas. Et vient un moment, la cérémonie a lieu, etc. Et voilà qu'une question est donnée. Une question qui peut-être pourrait passer inaperçue dans cette histoire. Le verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait fait le rapport, « D'où es-tu ?» Et il répondit, « Je suis le fils d'un immigrant amalécite. » Je pense qu'on... Une autre version dit ceci, que vous allez peut-être mieux comprendre. « Je suis le fils d'un amalécite installé dans ce pays. » Et c'est là qu'est le problème. À mes yeux, c'est ma déduction sur le fait que le jugement tombe juste après cette parole. Voici que cet homme, alors que dans son histoire même, il dit « Je suis amalécite ». Et là, il essaye d'édulcorer un peu le truc. Il est en train de dire « Ouais, je suis quand même avec vous. Hein. » Il essaye de faire passer la pilule comme il peut. Mais il fait la plus grosse erreur qui était difficile à éviter d'ailleurs. Parce qu'en disant qu'il est installé dans le pays d'Israël, il dit qu'il est sous la loi du pays d'Israël. Il dit qu'il connaît la loi d'Israël. Et il dit qu'il est forcément sous le régime de la loi d'Israël. Et là, c'est très rapide d'en arriver à la conclusion qu'a fait David. Ce qu'il dit être, ce qu'il dit être, va le condamner. Je me suis permis de me poser la question, que se serait-il passé si cet homme, pendant le temps qu'il avait à disposition, il avait changé d'attitude? Que se serait-il passé si, au moment où David même lui posait la question, il avait plaidé coupable? Quelque chose me dit, on ne le saura pas. Et vous savez pourquoi on ne le sait pas? Parce que, en ce qui nous concerne, c'est la même chose. Je ne sais pas comment vous allez réagir à cette prédication. Et c'est pour ça qu'on ne le sait pas. On n'a pas la réponse exacte à cette question. Cet homme, on sait qu'il a mal répondu. On ne sait pas quelle aurait été l'issue s'il avait bien répondu. Mais on voit très très bien, dans le Nouveau Testament, et même à travers certains versets des psaumes, que celui qui regrette sa faute, celui qui se repent de son péché, Dieu est prêt à lui pardonner. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu réalises que tu es pécheur devant Dieu, et j'espère que tu le réalises, eh bien, fais attention à tes paroles, fais attention à ce que tu dis. Est-ce que oui ou non tu es chrétien? Est-ce que oui ou non tu as refusé Dieu? Ici, David, lui, il est empreint de la loi de Dieu. Il est même, à ce moment-là, il dit sa première sentence en tant que roi. Et il exerce le jugement du souverain d'Israël. Et il ne fait qu'appliquer la loi. Tu as tué, alors tu vas mourir. Et en ce qui nous concerne, on a plusieurs réactions possibles. On voit que cet homme, il a été condamné quelque part pour un crime qu'il n'a pas fait. Et peut-être certains d'entre nous pourraient se dire, mais ouais, c'est vrai, mais de toute façon, moi, Jésus-Christ, moi, j'étais pas sur place. Moi, j'ai pas tué Jésus-Christ. J'y étais pas. Mais après, comment on se positionne par rapport à Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est l'envoyé de Dieu. C'est le Messie de l'Éternel, celui que Dieu avait envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Et il a été crucifié comme un bandit. Certes, je n'y étais pas, personne de nous n'y était, mais nous sommes tous appelés à répondre à sa mort. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est quelque chose de donné une seule fois. Jésus est mort une et une seule fois. C'est un acte universel. Il n'a pas besoin de le répéter. Il l'a fait une et une seule fois. Et il est mort pour tous les hommes. Mais néanmoins, nous avons à nous positionner quant à sa mort. De la même manière, Jésus, lui, est mort injustement, condamné par la justice des hommes. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à notre positionnement. Est-ce que je suis de ceux qui refusent Jésus-Christ ? Alors, tout simplement, à cause de sa mort à lui, la loi fait que je vais devoir mourir à mon tour. Si je refuse cette réalité, si je refuse de croire que Jésus-Christ est mort pour moi, alors ce refus-là fait que je me place sous une condamnation. Et finalement, le refus de réflexion, le refus de considérer l'œuvre de Jésus à la croix est un mépris. Donc devant Dieu, je serai méprisé. C'est la loi de Dieu. Dieu nous mesure avec la mesure qu'on utilise. Si je méprise le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire, alors je serai aussi méprisé dans le ciel. Quant à ceux qui veulent se justifier peut-être, qui se disent « Ouais, mais moi je suis chrétien, j'ai pris mon baptême, je me suis engagé », et puis qui finalement ont un témoignage qui ne correspond pas, comme cet homme. C'est justement ce qui l'a condamné. Et j'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on soit sérieux. Si je juge les autres, je serai jugé de la même manière. Dans le cas où je ne me serais pas approché du Seigneur, où je n'aurais pas saisi la grâce qu'il veut me donner. Je parle de ce cas de figure, de celui qui reste dans sa pratique, qui dit qu'il est chrétien parce qu'un jour il a fait une expérience, parce que un jour il a vécu quelque chose de sympa avec Dieu, et puis qui finalement se dit « bah c'est bon, j'ai vécu ça, donc tout va bien, et je déroule ma vie, je fais ce qui me plaît ». Ça veut dire que c'est une personne qui n'écoute peut-être pas Dieu qui l'appelle. Laissez-moi vous poser la question, si toute votre vie vous n'écoutez pas Dieu, qu'est-ce qui l'oblige à vous écouter une fois que vous comparaîtrez devant lui ? Peut-être quelqu'un se dit chrétien et se refuse à pardonner. Quand on a reçu gratuitement, il nous faut donner gratuitement. Et si je me dis chrétien et que je ne pardonne pas, ça veut dire que je me replace sous une condamnation. Parce qu'il y a un lien qui est là, qu'il faut absolument délier. Et si je ne pardonne pas, quelque chose de pas très important, on va dire, comparé à l'offense que j'avais faite à Dieu, pourquoi lui serait-il obligé de me pardonner ? Si je suis quelqu'un qui est légaliste, qui se fait tout un système de lois intérieures, c'est par ses propres lois que tu périras. J'aime pas dire ces paroles parce que ça peut paraître un peu sévère. Mais le Seigneur nous tend la main. Et nous, on reste bloqués dans des choses qui nous condamnent. J'aimerais qu'on puisse le réaliser. Si je méprise Dieu, si je méprise la main que Dieu me tend, il peut me mépriser librement quand je paraîtrai devant lui, parce qu'il ne fera que la même chose que ce que je lui ai fait. Le disciple de Christ, lui, à l'inverse, il a su prendre la main de Dieu. Il a su saisir la grâce que Dieu lui donnait. Et nous tous, c'est ma prière que nous tous, nous fassions cet acte de foi que de saisir la main que Dieu nous tend. Que nous puissions saisir sa grâce. Et je le répète, Jésus-Christ est venu sur la terre et il n'avait rien reçu. Il a tout donné. Il a tout donné. Il l'a fait par amour pour nous, parce qu'il nous voulait auprès de lui, parce que Dieu veut nous faire du bien. Je ne voudrais pas que cette prédication soit qu'une crainte du jugement, mais qu'on puisse comprendre que si Dieu nous avertit, si Dieu nous appelle, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous faire du bien. Alors on a ces exemples dans sa parole. qui doivent nous aider à avoir une réflexion sincère, une réflexion honnête et droite devant Dieu. Et je ne voudrais pas non plus qu'on croie que si je suis chrétien, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela, que je fasse encore ceci à droite, parce que c'est remettre quelque chose, un système de loi qui n'est pas celui que Dieu veut. Mais le vrai chrétien, celui qui réfléchit et qui a vécu vraiment dans son cœur l'expérience du pardon des péchés, celui qui a vraiment fait cette expérience avec Dieu et qui est passé de la mort à la vie, celui qui a reçu la grâce de Dieu par le sang de l'agneau qui est mort sur la croix, le plein pardon de Dieu, eh bien, celui qui est passé par ces choses, c'est tout naturellement qu'il va vouloir lui aussi pardonner. C'est tout naturellement qu'il va vouloir écouter ceux qui sont autour de lui. C'est tout naturellement que lui, conscient qu'il n'avait rien fait de bon pour être sauvé et qu'il est sauvé, il va considérer tous ceux qui sont autour de lui comme des personnes comme lui. Les personnes qui sont sauvées entre elles ont ça en commun. C'est qu'elles savent qu'elles ne méritent pas d'être sauvées. Ça casse tous les liens. Ça enlève toute supériorité, toute infériorité. On est tous au même niveau. Personne ne mérite d'être au ciel. On est tous sauvés par grâce, parce que Dieu nous aime et qu'il a tout fait pour nous. C'est tout naturellement qu'un vrai chrétien, il va développer ces choses parce qu'il sait ce qu'il a reçu. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment mesurer. C'est ma prière pour ce soir qu'on puisse réaliser, et si vous n'avez pas fait cette expérience, je vous encourage à demander à Dieu qu'il vous aide à réaliser comment il vous voit dans votre péché. Parce que on a besoin de cette révélation, et c'est une révélation que Dieu nous donne, non pas pour nous attrister dans la durée, mais cette tristesse qui nous amène à saisir la vie de Dieu. Ce soir, je ne voudrais pas que tu repartes en te disant « Mais mince, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Mais comme cet homme, on est dans un temps où on peut saisir la grâce de Dieu. Cet homme, il a eu le temps de le faire, il n'a pas saisi ce temps. Il n'a pas compris pendant toute cette journée, pendant toute cette cérémonie, qu'il aurait peut-être pu aller voir David et lui dire qu'il lui avait dit n'importe quoi. Il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas saisi ce temps. Nous sommes au même moment. Et il y a le temps qui passe. Et pour l'instant, le jugement n'est pas sur nous, mais c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'appelle. C'est sa main qui est tendue vers toi pour que tu puisses passer de la mort à la vie. Saisis ce temps et reprends-toi sur tes mauvaises habitudes, peut-être. Toi qui te proclames chrétien et qui fais n'importe quoi, à gauche, à droite. Qu'est-ce que Dieu en pense? Le chrétien n'est pas appelé à faire tout ce qui lui plaît. Il y a une certaine liberté, c'est vrai. Mais Dieu met en nous des vrais sentiments qui nous conduisent naturellement vers autre chose que le « je fais ce que je veux ». Le vrai chrétien, son bonheur, et il l'a compris parce que Dieu le lui a montré, il a compris que son bonheur, c'est de faire ce que lui, il veut. Et c'est ainsi que le chrétien, il peut vraiment saisir la grâce de Dieu, il peut vivre dans ce repos, dans ce bonheur éternel, déjà maintenant sur la terre, parce qu'il sait en qui il a cru, et il sait qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Il a été pardonné de ses péchés, et le Saint-Esprit atteste ces choses quand on a fait cette expérience. On est tous assurés. Et si tu n'as pas cette assurance ce soir, alors il te faut aller. Il te faut aller devant Dieu et lui demander pardon pour ton péché. Dieu n'a pas d'autre souhait que de t'accueillir à bras ouverts parce qu'il t'aime. Et il te désire auprès de toi. Et il désire te pardonner pour ce que tu as pu faire de mauvais, pour ton péché, quel qu'il soit. Le Seigneur t'accueille et il te veut auprès de lui. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. J'aimerais peut-être proposer à quelqu'un de réfléchir à ce que nous venons de partager. C'est sérieux. et si peut-être j'ai eu des paroles un peu sévères. Je vous demande pardon. Mais sur le fond, l'appel de Dieu est là. Le Seigneur nous appelle à ne pas être léger. Et celui-là même qui va vouloir dire « mais moi je suis chrétien », mais qui n'a pas une vie qui correspond, Dieu ne pourra pas l'accepter, malgré son grand désir d'ailleurs. Est-ce que peut-être cette histoire te fait réaliser que tu es un peu comme cet homme ? Tu voudrais avoir des intérêts, tu voudrais ne pas aller en enfer peut-être, mais vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu, pour l'instant, ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est vouloir la récompense, vouloir cette vie par intérêt. Mais c'est pas une démarche d'amour envers Dieu. Le Seigneur t'appelle à réfléchir sur ce qu'est ta vie. Est-ce que oui ou non, tu l'aimes ? Est-ce que oui ou non, tu as cette crainte de Dieu ? Pas au sens d'avoir peur de lui, mais au sens de te dire, tiens, est-ce que ma vie, elle lui est agréable, oui ou non ? Est-ce que ce sentiment-là t'anime ? Ou est-ce que c'est un sentiment où tu te dis, moi, je veux faire ce qui me plaît dans la vie ? Et finalement, ce n'est pas Dieu qui règne sur ta vie, c'est toi-même. Si Dieu ne règne pas sur ta vie, il ne pourra pas te prendre parce que tu ne lui appartiens pas. Dieu ne pourra prendre que ceux qui lui appartiennent, autrement dit que ceux qui ont décidé de le mettre, lui, sur le trône de leur vie. Et il t'appartient ce soir de décider ce que tu veux faire. Le temps passe et le Seigneur attend patiemment, espérant que tu puisses te repentir, parce qu'il veut te sauver. Est-ce que quelqu'un voudrait demander à Dieu sa grâce ? On va rester recueillis. Je ne vais même pas faire d'appel. Ce que je dis là est suffisant. Je vais juste prier. Seigneur notre Dieu, tu as entendu ce qui a été partagé. Tu entends aussi les prières secrètes de nos cœurs. Et je veux te prier pour celui ou pour celle qu'il réalise qu'il t'aime par intérêt et qui ne réalisait peut-être pas qu'il s'éloignait de toi. Seigneur, je veux te prier pour ces cœurs peut-être qui, à la lumière de ce qui a été dit, réalise qu'il a besoin de ta grâce. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait de réelles décisions de prise, que cette crainte de Dieu naisse dans les cœurs et que ces personnes puissent saisir par la foi la main que tu leur tends. Merci pour ton amour inconditionnel. Oui, Seigneur, nous ne t'avons rien donné, pourtant toi tu nous as tout donné. Tu es venu jusqu'à nous avec un désintérêt total. Seul ton amour a fait que tu t'es déplacé jusqu'à nous, qui a fait que tu as souffert à ce point pour nous sauver. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi. Je te rends grâce pour ceux et celles qui t'ont demandé pardon et qui ont saisi justement par la foi le don de ta vie. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous tous ce soir. C'est ma prière. Seigneur, je te demande que tu puisses, par ton esprit, encore parler à nos cœurs et que nous puissions avoir ce cœur disponible devant toi dans les moments qui vont venir. Que ce soir soit une soirée où nous pourrons nous retrouver devant toi et avoir ce cœur à cœur avec toi et recevoir ainsi la grâce que tu veux nous donner. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour tes bienfaits. Gloire à ton nom Seigneur. Amen.